BW. Droits et libertés.
On célèbre cette semaine les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors une fois n'est pas coutume, nous allons faire un tour au Japon pour parler des élèves décrocheurs et de la façon dont on essaie de les réinsérer. Ça se passe à Kawasaki, près de Tokyo. Et puis un entretien en seconde partie avec Nakelji Yorongar, un opposant du Tchad. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Plusieurs études estiment à 2% environ le nombre d'élèves qui sèchent régulièrement les cours en Allemagne. Alors dit comme ça, 2%, ça paraît pas très important, mais le nombre de décrocheurs serait globalement en hausse. Or, dans les écoles publiques, il n'y a pas grand-chose de prévu pour les réintégrer au système scolaire, ni même pour les remotiver. Ça peut paraître étonnant quand on connaît les clichés sur le productivisme japonais, mais les Nippons sont très en avance en la matière. C'est ce que nous montre ce reportage dans une école pas tout à fait comme les autres à Kawasaki, près de Tokyo, où les enfants ont le droit de jouer et lire autant qu'ils le veulent. Cette municipalité se dit précurseur dans la défense des droits des enfants. Yume, ça veut dire rêve en japonais. C'est ce que la ville de Kawasaki compte bien devenir pour les enfants qui y habitent. Et dans le parc des rêves des enfants, le petit Haruto, 9 ans, fait du skate, sa casquette vissée à l'envers sur sa tête.
Des fois, je viens tôt, des fois tard, ça dépend. Quand je veux jouer tôt, ça m'arrive d'être là dès 8h30, alors que les portes du parc n'ouvrent qu'à 9h.
Ça fait maintenant 2 ou 3 ans qu'Haruto vient régulièrement s'amuser ici.
J'étais en primaire et puis je n'ai plus eu envie d'y aller. Alors des fois, je viens ici et des fois, je vais à l'école.
Et hop, Haruto part en courant avant de revenir quelques minutes plus tard seulement pour appeler...
À table!
À côté de la cuisine, il y a une salle où sont regroupés une vingtaine d'enfants et de jeunes, les yeux rivés sur leur PlayStation. D'autres s'affairent au fourneau, coupent la dernière gousse d'ail en petits morceaux. La plupart des jeunes qui sont là ne vont plus régulièrement, voire plus du tout à l'école. Taro, 15 ans, goûte la sauce des pâtes.
Je n'aimais pas mon école à cause du prof.
Au Japon, plus de 130 000 enfants et adolescents refusent d'aller à l'école. Dans le secondaire, ils sont près de 3% et près de 60% des élèves ratent plus de 3 mois de cours dans l'année scolaire, tendance à la hausse. De l'avis de Hiroyuki Nishino, le directeur du parc des rêves, la faute en revient essentiellement à la pression constante, au stress provoqué par une société hautement compétitive.
Au Japon, l'école tient une grande place et un élève qui n'arrive pas à s'y débrouiller est quasiment hors jeu. Beaucoup d'enfants, mais aussi des parents se suicident à cause de ça. Mais nous voulons leur dire, c'est bien que tu sois là, il y a une place pour toi ici et tu peux mener ta vie comme tu l'entends.
L'objectif du parc est donc de rendre aux jeunes leur confiance en eux, explique le pédagogue. Chaque jour, il reçoit jusqu'à une cinquantaine d'enfants et ados, en majorité des garçons d'ailleurs, soumis à un stress considérable pour réussir à tout prix dans un Japon toujours très conservateur. C'est pourquoi Kawasaki a décidé en 2001 d'établir un règlement axé sur les droits de l'enfant, le droit d'auto-déterminer sa vie, de participer à la vie en collectivité, de s'épanouir. Un conseil des enfants a été mise en place et donc le parc des rêves des enfants, financé par les pouvoirs publics et des dons.
La ville fait des contrôles pour vérifier que les droits de l'enfant sont respectés. Cela porte déjà ses fruits. Il y a des parents qui ont choisi de s'installer ici à cause du parc et rien que ces derniers temps, ils étaient une trentaine. Les gens savent que Kawasaki est une bonne ville pour y grandir.
Alors cette tentative de pédagogie alternative ne plaira pas à tout le monde. La méthode est discutée et discutable. D'ailleurs, peut-on vraiment toujours s'adapter au rythme de chaque enfant individuellement, Comment leur donner un cadre, leur transmettre des règles de vie en société? Et ne s'agit-il pas ici d'un projet réservé à une infime frange des jeunes dans un monde où des millions d'enfants rêvent ne serait-ce que d'aller à l'école? Nous ne trancherons pas ici ces questions, mais l'initiative de Kawasaki a le mérite de faire réfléchir. Le 10 décembre 1948, l'ONU adopte à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après la défaite des nazis et de leurs alliés en 1945, ce texte traduit l'ambition des États du monde à souligner le caractère universel des besoins de liberté, de justice, d'égalité. Les droits économiques, culturels et sociaux sont élevés au même rang que les libertés civiles et politiques. La déclaration est adoptée par 48 des 58 États membres. Le Yémen et le Honduras sont absents et 8 autres s'abstiennent. La Biélorussie, l'Ukraine, l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Yougoslavie, mais aussi l'Afrique du Sud qui vit sous le régime de l'apartheid et l'Arabie saoudite qui, elle, conteste l'égalité homme-femme. Le problème, c'est que ces engagements ne sont pas contraignants. Le Tchad fait partie des pays qui ont signé la déclaration de 48 et pourtant, le régime d'Idriss Déby Itno est régulièrement épinglé par les défenseurs des droits humains pour les violences infligées aux opposants, parfois sous couvert de lutte contre le terrorisme. Ngarledji Yorongar compte parmi les membres de l'opposition qui ont subi des violences pour leurs opinions trop affichées. Sylviane Koné a pu le joindre par téléphone pour parler avec lui de la situation des droits de l'homme au Tchad.
Au Tchad, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Je suis l'exemple vivant puisque les tortures que j'ai subies durant le règne d'Idriss Déby m'ont provoqué 7 AVC, je dis bien 7 AVC avec perte de parole, paralysie totale, etc. Tout dernièrement, Idriss Déby a bombardé, brûlé le village de Miski. C'est des civils, c'est pas des militaires.
Au niveau de la population tchadienne, quelles sont les violations que vous reprochez à M. Déby?
Mais la destruction de la population civile de Miski est un exemple. En cette fin d'année 2018, vous savez que Déby lance des napalms sur le village Miski. Il bombarde.
Monsieur Déby, lui, il estime que c'est plutôt dans le cadre de la lutte antiterroriste qu'il effectue des bombardements.
Quand il dit que ce sont des terroristes, c'est un mot en vogue qu'il faut utiliser pour attirer l'attention, tromper l'opinion. Attirer l'attention de l'opinion internationale, tout simplement.
Pourquoi vous pensez que la communauté internationale ne dit rien par rapport à ces massacres-là?
Parce que Idriss Déby fait le sale boulot à la place de la communauté internationale et à la place de l'Occident.
Et qu'est-ce que vous entendez par sale boulot?
Le sale boulot, c'est ce qui se passe au Sahel. Le sale boulot, c'est ce qui se passe avec les Boko Haram, etc.
Ce qui se passe, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous entendez par ce qui se passe?
Mais Déby est en train de faire la guerre à Boko Haram. Il est en train de faire la guerre au Mali. Est-ce que les Boko Haram, les terroristes du Mali ont attaqué le Tchad? Ils n'ont pas attaqué le Tchad, mais c'est les Occidentaux qui le poussent à faire la guerre. Il est maintenu pour faire cette guerre. Ils l'ont utilisé pour faire la guerre au Soudan, la guerre contre les Janjaweed. Il fait la guerre en RDC, au Congo-Brazza, à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il est partout. C'est lui qui fait le sale boulot.
Alors, M. Yoronga, à quoi ça sert les textes si les États n'ont pas obligation d'appliquer ces textes-là?
On fait les textes pour les beaux yeux de la population, pour les beaux yeux de l'opinion internationale, mais son application ne suit pas. C'est ça le cas du Tchad.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces textes-là soient mis en application?
Mais il y a des contraintes qui existent. Des hommes politiques, les adversaires, les opposants qui sont tués, assassinés. dans la même situation que ce Khashoggi, mais personne ne réagit. Mais quand il s'agit de Khashoggi, c'est tout le monde qui crie.
Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que quand il s'agit de l'Afrique, les dirigeants occidentaux ne réagissent pas?
Ils ne réagissent pas du tout. Ils ne lèvent même pas le petit doigt.
Vous dénoncez, vous avez même publié deux livres, les violations des droits de l'homme qui sont commises au Tchad, notamment par le président Déby. Est-ce que vous ne pensez pas à baisser les bras ou à changer de tactique?
Mais il y a de quoi baisser les bras, puisque ça fait depuis 28 ans que je suis en train de crier dans le désert. Je n'ai pas décidé d'abandonner. Je suis malade, je me soigne et quand je serai rétabli, je reprends la lutte.
Et de quelle manière vous voulez reprendre la lutte?
Ben dénoncer. M'a coûté le caillot de sang dans le cerveau. Dénoncer qui m'a coûté les vertèbres au cou cassées, etc., etc. J'ai déposé plainte avec preuve irréfutable devant le tribunal de grande instance de Paris. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est.
Alors, vous voulez continuer à dénoncer, à porter plainte, bien que vous n'obteniez pas de résultats?
Ben, vous avez vu un pays africain ou un Africain qui porte plainte contre une autorité africaine et qui gagne? Il n'y en a pas.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Ngale et Jay Yorungar et Sylviane Koné pour l'interview et à Catherine Hartmann pour les sons du Japon. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Salut.